I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Je crois qu'en fait, c'était tellement un truc que je ne voulais pas être. Je voulais tellement pas être lesbienne. Moi, ça faisait des années que je faisais du stand-up et je ne disais pas que j'étais lesbienne. Ça fait pas très longtemps que j'ai compris que de dire sur scène aux gens que j'étais lesbienne, ça pouvait faire du bien aussi. Enfin, et parfois, juste de dire, bah, en fait, moi, je suis lesbienne. Voilà à quoi ça ressemble, une lesbienne. Et peut-être que vous avez peur de nous, mais en fait, vraiment, regardez. C'est juste, c'est vraiment... On pouvait pas avoir peur de moi, quoi.
Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime et c'est contre nature.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de...
Contre nature.
Ah, j'adore le tien, il était plus vraiment authentique, ouais. C'est contre nature.
C'est contre nature.
Plus on les fait, j'ai l'impression, et moins bien on les fait.
Ouais.
Parce qu'on va trop... Il faut qu'on répète un peu nos contre nature, je pense.
Franchement, moi j'ai été émue. Hein. Vraiment, vous m'avez... moi j'ai eu un peu les poils.
T'es revenu à 2012 là, c'est ça,
mais ça c'est dans mon spectacle, ce tout petit extrait, donc je l'entends toutes les semaines. C'est contre nature.
Nous aussi.
Et après, et c'est... qu'est-ce qu'elle dit après? La foudre...
La foudre, ouais, ça s'abattre sur le monde. Hein.
Ouais. Wow.
Moi j'avais un ami homosexuel qui m'a appris à tricoter.
Il m'a appris la couture.
La couture.
Je me rappelle très bien, mais c'était contre nature, on me rappelle très bien. Ouais.
Ouais, ouais. Mais du coup, vous l'aurez peut-être compris ou pas compris, je ne sais pas ça vaut, si vous regardez le YouTube ou si vous écoutez sur Spotify. Mais aujourd'hui...
Tu dis le YouTube.
Oui, je crois que c'est la première fois qu'elle a dit le YouTube.
Et vous regardez le YouTube.
Moi, je me fais clasher d'entrée direct.
Je crois que c'est la première fois qu'elle dit le YouTube. D'ailleurs, ouais. J'ai jamais entendu quelqu'un dire le YouTube, mais bon.
Eh ben, bref. C'est moi parce que je suis unique. Et donc, le YouTube, on va rester sur le YouTube. On a dit que c'était masculin aujourd'hui. On est avec la seule, l'unique. J'allais te présenter avec toutes les humoristes, comédiennes, autrices, podcasteuses, metteurs en scène ou metteuses en scène.
Metteuses en scène.
Plutôt,
metteuses,
ouais.
En scène.
Non, mais metteuses
en scène. Maîtrise en scène, on dit.
Metteuses en scène.
Point E, point S.
Voilà.
Maîtrise en scène.
Animatrice radio.
Maintenant, oui.
Et tellement plus de choses.
Oui, c'est vrai.
Parce que t'as tellement plus de temps, finalement.
Mais c'est vrai que je suis vraiment beaucoup de temps libre en ce moment.
Ouais.
Donc, vraiment, c'est vrai que un petit peu de peinture aussi avec les numéros.
Oh, bah oui.
Vraiment, ça me prend une grosse partie de mon temps.
Et donc, vous l'avez compris, on est avec Marine Bausson.
Bonsoir. Hein.
Bienvenue. Hein.
Du coup, Marine, comment tu te sens déjà?
Là, actuellement,
ouais.
Vraiment, j'ai dormi 4 heures max, je suis au top de moi-même. Vraiment, en vrai, je suis au bout de mon slip. Mais franchement, beaucoup de joie de vous retrouver dans ce studio aux aurores, finalement.
Bah, oui.
Pour le coup, c'est la première fois qu'on tourne aussi tôt. Après, il n'est pas si tôt que ça. Bon, il est quand même 9 heures, mais d'habitude, on filme toujours l'après-midi. Et nous aussi, en fait, on est sortis hier. Enfin, trop bien, on est sortis. C'est bien, il faut
vous
vivre
tout
ça.
Vous avez fait quoi?
Ben, on a été voir un autre humoriste.
Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, je suis ravie.
Non,
je leur ai dit, vous voulez voir mon spectacle? Ils m'ont dit, on peut pas, on va voir Alex Ramirez. J'étais là, bah super. Et vous le recevez au moins?
J'adore,
oui.
T'es là, super. Hein.
Ouais.
Super. Hein.
Ah, ben, t'as incarné le contre-nature. Ouais, et donc du coup, c'était trop bien, évidemment. Et après, on est resté un peu plus tard et tout. Et on s'est dit, attends, mais on a quand même le podcast demain matin et tout.
Attends, mais ça veut dire que du coup, on ira voir ton spectacle et qu'il faudra qu'on fasse un deuxième podcast.
Mais ça va me. ça va me prendre un temps cette histoire.
Finalement.
Mon planning est booké sur les 3 prochaines semaines juste parce qu'ils sont pas, ils sont pas venus en fait.
Même on a très hâte de voir ton spectacle en tout cas. Profite déjà, c'est le début du podcast, mais dis-nous où est-ce qu'on peut le voir, quand.
Ah bien sûr, évidemment, comme ça les gens peuvent directement réserver.
C'est ça.
Je joue, il y a une tournée, ça s'appelle Vulgaire. Je joue au Grand Point Virgule tous les jeudis à 21h et sinon en tournée, il y a quelques dates. Il y a Nantes, Moneto, des endroits où je sais pas trop où c'est, mais voilà. Et il faut que j'explique ce que c'est comme spectacle.
Non, ça on va y venir.
Donc réservé, mais dans le suspense.
Okay. Parce qu'en fait, finalement, on fait toujours la promo à la fin.
Ouais,
mais
c'est dommage.
Autant faire en 30 secondes la promo au tout début.
Bah oui.
Soyez au courant, allez voir le spectacle et après on en parle.
Bien sûr. Toi, viens voir le spectacle et après on en parle.
Mais j'avais déjà Alex Ramirez, malheureusement.
C'était très très bien. Et du coup, on commence toujours le podcast. Je sais pas si t'as été.
Pas du tout, vraiment.
Okay.
C'est bien.
Avec deux anecdotes, une étant vraie, l'autre étant fausse.
Oui.
À la
donc,
fin du podcast.
Je donne mes deux anecdotes.
Voilà. Et à la fin du podcast, on révélera laquelle était vraie.
Ok, donc j'ai deux anecdotes à vous raconter.
Vas-y.
La première, c'est que depuis peu dans mon spectacle, c'est un spectacle. Tu vois, tu voulais pas que je raconte mon spectacle, mais je vais être obligée de le raconter pour mon anecdote. Dans mon spectacle, c'est un spectacle où les gens choisissent les sujets.
Okay.
Donc je dis, vous avez le choix entre la conquête de la Lune ou la Commune de Paris. Mmh. Vous avez le choix entre le droit de vote des femmes en France ou le procès de Bobigny. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mmh. Et depuis que je joue au Grand Point Virgule, on a fait une nouvelle version avec soit Sissi, soit Mylène Farmer. Okay. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais la semaine dernière, il y avait Mylène Farmer.
Waouh, ok.
Mais moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire que je monte sur scène et je sens que quand je commence, les gens, ils rient. Mais en même temps, ils sont... Ah et je ne sais pas comment elle a su, mais voilà. Et donc, à la fin, elle a discuté, elle m'a dit que c'était rigolo et tout. Mais on n'en a pas... Voilà,
attends, Mylène Farmer. La Mylène Farmer.
Ouais.
T'imagines, elle avait dit...
Le Mylène Farmer, finalement, plus masculin
aujourd'hui. Elle avait dit, si, elle était là, elle était...
Attends. Bon, alors là, pour le coup... Tu parles à deux personnes qui ne sont pas hyper fanatiques de Mylène Farmer.
Ouais,
pour
on va se prendre toutes les foudres sur
ouais, on adore Mylène Farmer, mais on n'a pas grandi avec
cette figure.
Cette fièvre de Mylène Farmer qu'ont beaucoup de personnes, tu vois, malheureusement, mais on l'aime beaucoup. Mais on n'est pas des fanatiques comme moi, je connais des personnes qui donneraient leur bras droit pour elle, tu vois.
Ah ma co-autrice, Laura Domange, c'est vraiment c'est son idole absolue. À un moment, elle était en bas de chez elle. Elle attendait en bas de chez elle.
Ah non, enfin, mais ça, vraiment, c'est genre, pas légal.
Elle faisait ça dans les années 90.
Ah, c'était
donc,
légal.
C'était vrai. À l'époque, c'était
légal. Une autre époque.
Et voilà. Et donc, quand je lui ai dit ça, elle était dégoûtée parce que c'est vraiment c'est son idole absolue.
Mais à tout le monde. Parce
que je me dis elle chante très bien et puis c'est enfin vraiment elle a libéré la parole très tôt et puis c'est ouais. une personne forte,
figure,
c'est une femme
quoi.
Forte.
Bah moi j'ai été vachement surprise en bossant sur son parcours parce que moi pareil j'ai pas écouté vraiment Mylène Farmer très peu évidemment quand dans un mariage t'as Libertine.
Allez.
Tu me vois
première.
Bien sûr. mais c'est vrai que c'est pas une figure pour moi donc à la fois j'étais très heureuse qu'elle soit là mais j'étais plus impressionnée de faire des blagues sur elle et sur son parcours et sur son histoire, sur sa vie, devant elle, plus que voilà.
Bon, en vrai, c'est ça, c'est pas.
On rappelle que c'est peut-être un mytho. Hein.
Oui, c'est peut-être un gros mytho.
Vraiment, si c'est un mytho, tu nous donnes autant de détails.
Okay. Et le deuxième, du coup.
Le deuxième est faux aussi. le deuxième, c'est que je suis allée à San Francisco pour mes 30 ans. On m'a offert un voyage. Et je suis allée à San Francisco et j'avais une copine qui habitait là-bas et qui, Letty, si on t'embrasse, et elle me dit, viens si tu veux, je sais que tu fais du stand-up, que t'adores ça, viens. Moi, je travaille avec comment je peux l'expliquer ? Je travaille avec une église et ils font plein de trucs et il y a un spectacle de stand-up d'une meuf trans, viens. Et moi, j'arrive là-bas et c'était pas du tout, c'était pas du tout le spectacle d'une meuf trans. C'est-à-dire que c'était un concours d'humour, donc c'était des gens qui venaient, ils étaient dans l'extrême pauvreté, les gens venaient dans l'espoir de gagner un sac de courses. Et moi, je suis touriste, je rentre là et je viens voir ce concours d'humoristes où des gens font des blagues en espérant pouvoir manger, en fait. Et donc, ça, c'était trop malaisant. Et donc, alors, tu sais, quand tu rentrais, à chaque fois, on te donnait un ticket. Parce que potentiellement, grâce à ce ticket, tu pouvais gagner un sac toi-même. Et en fait, moi, j'ai fait non, mais heureusement que j'ai dit non, parce que.
Qu'est-ce que ça va avec la personne trans, du coup ?
De quoi ?
Qu'est-ce que ça va avec les personnes trans ?
Bah, en fait, parce que c'était principalement des personnes trans qui étaient là et qui étaient vraiment dans une extrême pauvreté, qui étaient vraiment en galère, et c'était présenté par une meuf trans. Et après ça, elle a fait, je dirais vraiment 1h15 de elle a prêché, quoi. Vraiment, elle a prêché pendant 1h15. Et c'était assez fou parce que, enfin, à un moment, c'est vraiment rapproché beaucoup de moi. Et je vais vous le faire à la caméra, les autres, dans le podcast. Enfin,
les gens sur le YouTube.
Sur le YouTube.
N'hésitez pas. Et donc, à un moment comme ça, elle s'approche de moi, elle met le pied sur la chaise devant moi, elle me fait. Est-ce que tu sais ? Et vraiment, j'étais là, c'est vraiment très près de mon visage. Et voilà. Et donc, c'était un peu fou. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce type de tourisme ? C'est où tu vas voir des trucs horribles, des gens en galère en fait. Et voilà. Donc, et je suis contente de ne pas avoir été tirée au sort pour gagner un sac de course parce que je sais que je l'aurais pris. Mais
ma conclusion, c'est que tu m'étonnes de fou.
Non, mais si ça, c'est le mytho, je suis quand même impressionné et à la fois je me dis j'ai un peu peur quand même parce que je me dis
ou alors niveau de détail il est quand même phénoménal.
Ah bah, attends, moi c'est mon métier, on écrit des histoires,
on a eu du acting et tout,
mais surtout une dédication parce que je pense que jusqu'à présent on a eu des anecdotes.
Dédication, ça se dit en français?
Dedication.
Mais toi t'es bilingue.
Tu parlais de San Francisco et je me suis dit, je me suis mis dans le personnage de la meuf qui t'a accosté.
Deuxième fois.
Non mais d'habitude les anecdotes sont beaucoup plus courtes et tu sais genre une fois je me suis et là toi t'es et donc du coup.
Non mais attends, j'ai bossé dans ma douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. C'est parce que je suis restée vraiment très longtemps à réfléchir à ce que je pouvais dire.
Du coup j'ai un petit doute mais j'ai aussi je pense savoir, mais bon on verra à la fin du podcast du coup laquelle était vraie.
Du coup Marine, nous on s'était rencontrés il y a quelques années.
Je dirais 2019.
Oh 2019. Putain, je pensais que t'avais 2019. 2010, quoi. J'étais en mode, mais attends, t'es même pas haut, toi.
Ou 2019. Peut-être 2020, en sortie de. Peut-être avant le confinement.
Oui, avant le confinement.
Donc, je dirais 2019. Ouais.
Dans une soirée lesbienne ou.
Non, bah, parce que
c'est cliché de dire ça.
C'était une soirée,
pas dire le contraire, ma belle.
Bah oui, on était un comité. Non, mais parce que moi, j'ai une amie qui, du coup, connaît ta copine, je crois que c'est ça le lien, et qui avait dit, allez, on va voir toute Marine Bausson, parce que du coup, on a un groupe de lesbiennes dédicace aux boules volantes. D'ailleurs,
les boules volantes,
les moules volantes. Moules non, volantes. Les boules, non.
Les boules, c'est les mecs. Là, c'est nous. Là, c'est mon groupe.
Les moules volantes. Bref.
Et là, c'est pas mal, ça, les boules volantes. Bref.
Les moules volantes, ouais. Et on gagnait au blind test et tout. Ouais. Bref, les gens comprenaient pas qu'on était lesbiennes, je pense, mais bon.
Quand même, il y a des signes en général. Hein.
Il y a que elles qui disent, oh, les gens savent pas, on est en mode, si on sait.
Ça, oui, mais, tu as des chaussures de rando, ma belle.
Pas nous.
Et du coup, t'avais fait La Lesbienne Invisible. Et c'est la première fois, je pense, que j'avais vu une humoriste parler de choses de lesbienne, quoi.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Et t'avais pas vu le spectacle d'Océan avant ?
J'avais pas vu le spectacle d'Océan avant. J'étais pas sur Paris. Donc, je venais d'arriver sur Paris. Enfin, j'avais pas longtemps sur Paris. Et là, donc, je vois ce spectacle. Et j'ai trouvé ça fascinant qu'enfin, on parle aussi de lesbiennes sur scène. Enfin, et de façon tellement déconstruite, tu vois. Du coup, ma question, c'est comment t'en es arrivée ? Qu'est-ce qui fait que tu es arrivée à faire du stand-up ou du théâtre ? Enfin, je sais que c'est par rapport à quand tu étais plus jeune.
Ouais, il y a deux trucs différents. C'est-à-dire que j'ai repris le spectacle d'Océan à sa demande quand il a commencé sa transition. En gros, à l'époque, j'étais mince. Mais en gros, quand Océan a commencé sa transition, il a voulu dire que ce qu'il disait dans son spectacle avant, qui s'appelait La Lesbienne Invisible, dans lequel il incarnait un personnage qui s'appelait Océane Rosemary, mais c'était pas que un personnage, c'était aussi son nom d'artiste, et dans lequel il disait en gros qu'il était une lesbienne invisible. Il racontait tout son parcours, qui était pas exactement son parcours, mais qui était un parcours de lesbienne qui ont dit les gens croient pas qu'elle est lesbienne quand elle dit qu'elle est lesbienne. Et donc quand lui il a commencé sa transition, il a eu envie que ce spectacle a tellement été un énorme succès, il a été joué de 2008 à 2015. Il s'est dit il faut que ça continue, je peux pas, il faut que je dise aux gens et notamment aux lesbiennes que ce que je disais est encore valable et que je le pense toujours et que je renie pas ces années là quoi. Et donc il a cherché quelqu'un et à un moment il m'a appelé, et surtout vraiment c'était genre vraiment très peu de temps après sa transition, et il m'envoie un texto, il me dit est-ce que je peux t'appeler, et moi je me suis dit qu'est-ce que j'ai dû dire, un truc transphobe à un moment, je me rends pas, et vraiment j'ai flippé. En fait il m'a dit tu veux être moi, et moi j'étais là waouh, et je m'y attendais pas du tout parce que moi ça faisait des années que je faisais du stand-up et je ne disais pas que j'étais lesbienne, c'est-à-dire que je faisais toujours ce truc, mais oui je disais là ouais en fait la personne tu sais bon voilà,
je connais,
ouais,
voilà. Bien.
Donc je tournais toujours autour du pot et j'en parlais pas, notamment parce que ma famille était, mes parents, mon frère et ma sœur étaient au courant, mais mes grands-mères, mes oncles, les tantes, personne n'était au courant, donc pour moi c'était un vrai sujet, mais en même temps c'était quelque chose que je ne disais pas du tout dans mon travail. Et en fait quand Océan me dit j'ai envie que tu reprennes ce rôle là en fait, je me dis waouh, c'est trop pour moi, je vais pas y arriver, notamment parce qu'il y a ce coming out public et je suis pas prête à incarner tout ça et à être cette personne là sur scène, et parce qu'en fait je trouvais qu'il y avait tellement peu aussi de personnes LGBT. Entre-temps, ça a beaucoup changé. Entre-temps, maintenant, il y a toute une nouvelle génération. Il y a Tani, il y a Lou. Enfin, voilà, il y a plein de gens. Mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Mmh. Et j'avais cette sensation qu'en fait, si je disais que j'étais lesbienne, j'allais être plus que ça. Or, c'était pas quelque chose que je vivais au quotidien. Moi, en plus, tu vois, toi, ton groupe de lesbiennes, moi, j'en avais pas de groupe de lesbiennes. Moi, j'étais un peu toute seule, quoi. Donc, en fait, j'avais pas... J'avais l'impression que j'avais pas assez de culture, que j'étais pas assez, que je connaissais pas assez, que j'étais pas assez militante, que en fait d'un coup dire que j'étais lesbienne allait forcément devoir, enfin j'allais et j'ai dû le faire forcément devoir incarner ça et être politiquement engagée et représenter des gens, etc. Et donc moi au début j'avais vraiment peur et j'ai dit à Océan mais vas-y je le fais mais on dit pas que je suis lesbienne et il m'a dit bah non.
Bah oui, c'est
il m'a dit c'est impossible. Il m'a dit tu peux dire que t'es bi si tu veux, tu peux dire mais il m'a dit je laisserai pas c'est tout le contraire de ce spectacle que de te cacher en fait. Et il m'a dit après tu as le droit de ne pas vouloir le faire mais par contre il faudra pas que tu mentes parce que c'est complètement le contraire du message qu'on veut laisser passer. Et j'ai réfléchi et en fait j'ai lu et relu le spectacle et moi je l'avais vu à l'époque quand c'était lui qui le jouait et je me rappelle de ce que ça m'avait fait. Et je me suis dit mais en fait il faut que je prenne cette chance quoi. Et je pense que d'une certaine manière ça a vraiment, je pense que Océan a un peu changé ma vie en vrai.
Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu dis genre justement que quand tu l'as vu ça t'a fait quelque chose, tu te souviens comment tu te ressentais?
En fait, je sais pas, j'ai des images du spectacle qui sont un peu quand il était sur son fauteuil et qu'il tournait dans la lumière et qu'il chantait. Enfin, je sais pas. En fait, je me sentais, je me disais en fait, il y a pas que moi, je suis pas seule et ça existe en fait. Et même si oui, j'avais déjà été avec des filles et tout, c'était pas la. Bah, comme toi, en fait, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui en parlait sur scène et c'était un peu émouvant. Mmh. Et par la suite, il m'avait dit, tu verras les retours des gens. Ça va être très fort, il va y en avoir beaucoup et ça va être hyper intense. Et au tout début, comme il était là tout le temps, en fait, les gens venaient beaucoup lui parler à lui. En fait, moi, finalement, les gens m'en parlaient pas. Puis il y a un moment où lui, bah, il est beaucoup moins venu parce que bah, le spectacle, il a commencé à se roder. Je l'ai quand même joué beaucoup. Et en fait, finalement, les retours après le spectacle, les émotions des gens, mais quel que soit leur âge, enfin l'âge, c'est assez troublant. Et après, il y a plein de petites anecdotes, mais par exemple, après le spectacle, une fois, je vois un papa qui sort avec sa femme et deux de ses filles, et il me dit « C'était génial, je vous connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout le truc, c'est ma fille qui m'a offert ça !» Et j'étais là, toi, juste après, tu vois, une conversation, tu vas apprendre des trucs sur ta famille.
Il y a une petite annonce qui arrive.
Mais c'était vraiment hyper touchant et hyper fort, et vraiment cette sensation ouais, que je le voyais que les gens, ils étaient... Toutes ces femmes, elles étaient vraiment émues de trucs, enfin qu'on parle d'elles, quoi. Ouais. Et en même temps, j'ai senti aussi la fin d'un cycle. À un moment, je l'ai arrêté. C'était après le confinement. Et quand on l'a terminé avec Océan, moi, j'avais vraiment cette sensation que ça y est, c'était terminé et que peut-être il y avait toute une nouvelle génération qui vivait les choses différemment et que peut-être que parler du pulp, qui est un endroit que moi personnellement j'ai pas connu, peut-être qu'il était temps aussi de passer à autre chose avec justement toute cette génération qui arrive et qui maintenant a des choses à dire et voilà quoi.
C'est drôle tout ce que tu dis par rapport au fait que tu voulais pas forcément qu'on sache que t'étais lesbienne ou quoi. Pour moi, aujourd'hui t'es un peu une des humoristes les plus assumées, celle un peu une référence, tu vois, dans le milieu.
Non mais c'est vrai, mais un peu une référence.
Non mais je suis étonnée justement de. Non mais oui, mais je suis étonnée de savoir que t'as eu ce cheminement.
Mais regarde, aujourd'hui concrètement, quand tu penses à une humoriste lesbienne, tu penses pas à moi. Les gens pensent pas à moi comme d'un.
Moi si, personnellement.
Oui, mais parce que vous me connaissez, on se connaît, on s'est croisés. Bon, je fais pas partie des moules farcies là, mais.
Les moules farcies, je préfère, c'est tellement plus drôle.
Non mais tu vois, on se connaît, mais il y a pas une sorte, tu vois, il y a pas. Par exemple, moi dans ma salle, tu vois une fille comme Tani, tu vois, qui remplit sa salle, il y a beaucoup de lesbiennes dans son public, pas que évidemment, mais il y en a beaucoup. Moi c'est pas ça, c'est pas la communauté qui remplit ma salle. Et donc il y a un espèce, je pense que mais peut-être que c'est parce que justement au tout départ j'ai pas voulu
t'imposer comme tel
ou... Exactement, ouais. J'en sais rien vraiment,
justement
je sais
avant de comprendre un peu ton cheminement et ce qui t'a amené justement vers la comédie et tout ça, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton enfance? Justement, tu dis que tes grands-parents sont toujours pas au courant que t'es lesbienne.
Tout le monde est décédé.
C'est une façon
toujours bien de mettre l'ambiance. Non, elles l'ont pas su. Ça me semblait insurmontable de leur dire.
Mais justement, raconte-nous ton enfance.
C'est quoi, parce que j'ai vu que t'étais à Ploufragan, c'est trop drôle comme nom.
Franck,
ouais, on dirait un truc de Harry Potter.
Tu viens, j'habite à Plouf.
Okay. À Plouf,
moi, à Plouf, ouais.
Okay. C'est en Bretagne donc.
Donc c'est en Bretagne, c'est collé à Saint-Brieuc. Et ouais, en fait, j'ai eu une enfance vraiment en pensant que j'étais hétéro, enfin vraiment pas de.
T'as combien de frères et sœurs?
Un frère et une sœur.
Un frère et une sœur.
Et donc je pensais que j'étais hétéro, enfin vraiment. Puis à un moment, je me rends compte que non.
À quel moment?
C'était à la fac où j'avais rencontré une meuf qui s'appelle Adélaïde et qu'on embrasse. Et en fait, Adélaïde était très. Oulala,
c'était un peu.
Oh, c'est référencé.
Les lesbiennes.
Une blague de la commune.
Ouais, mais blague les féministes de niche, comme on dit. Pas cette blague.
Et en fait, Adélaïde, on a eu une amitié très fusionnelle très vite. Et très vite, en fait, elle m'a dit qu'elle était lesbienne. Et vraiment, moi, après, pendant une nuit, pendant toute la nuit, vraiment, j'ai pas dormi. Je me disais, mais est-ce que moi aussi je suis lesbienne? Non, je pense pas que je suis lesbienne, vraiment. Non, mais c'est pas possible. Et en fait, le lendemain, je me suis sentie lui envoyer un texto pour lui dire merci de ta confidence, mais je tiens à te dire que moi je suis pas lesbienne. Alors qu'elle m'avait pas dit je suis lesbienne et j'ai envie d'être avec toi. Elle m'avait juste dit je suis lesbienne. Et moi, ça avait tout
très. Wow. Voilà, toi, t'étais déjà mariée, t'avais une vie avec elle. Et
mais vraiment... pas avant la fac, parce que la fac, t'as quel âge? T'as 18, 19 ans, plus ou moins 20 ans?
18 ans, ouais, j'avais 18
ans. Ok, t'as jamais eu de pensée ou tu t'es jamais posé la question avant?
Même en regardant des films ou quoi, t'avais jamais.
Après, il faut. Enfin, pour contextualiser, c'est un peu une autre époque aussi.
Je suis quand même née en 52. Oh.
Donc voilà, vous comprendrez.
Je vais essayer de faire en sorte de pas être vexé du fait qu'il soit pas venu voir mon spectacle et qu'il me dise que je suis une personne âgée et que je suis un peu une référence.
En fait, c'est notre génération, entre guillemets, tu vois. Donc,
mais parce que même là, quand tu dis ça à nous, 30 ans, je pense qu'à partir des années 95, 16, peut-être ça a changé, ou même peut-être 18, mais avant ça, on a tous eu un peu la même enfance où il y avait vraiment pas
mais
de.
Mais encore moins de représentation.
Non, il
n'y
avait
personne,
pas de représentation, ça n'existait pas. Bah, c'est vraiment Océan, moi, la personne. Easy Elward. Mais que Adélaïde m'a fait découvrir, évidemment.
Merci Adélaïde.
Et on t'embrasse.
On espère qu'elle nous suit.
Franchement, je pense que oui. En plus.
C'est vrai?
Bah, je pense.
Ouais, Adélaïde, écris-nous un petit commentaire. Fais-nous un petit like.
Tu n'avais aucune référence en grandissant, par exemple, dans les films où est-ce que tu connaissais le terme lesbienne même?
Oui, je le connais. Enfin, petite, non, mais après, en grandissant, oui, je le connaissais. Oui, il y en avait dans mon lycée, il y en avait. Il y avait un couple de lesbiennes dans mon lycée. Oui, je savais. Après, il faut rencontrer des gens, Moi, ça s'est pas présenté, donc voilà.
Mais
oui.
Même avant tes 18 ans, moi je suis resté là-dessus, mais évidemment, il n'y a pas d'âge, et on le rappelle évidemment, mais avant tes 18 ans, t'as jamais vu une fille, tu t'es dit waouh, en fait.
Mais en fait, je pense que ça a dû arriver, parce que j'avais des amitiés assez fusionnelles avec des filles, mais c'est pas. Enfin, ça ne me venait pas à l'esprit. C'était pas quelque chose que j'envisageais. Et je voulais tellement être dans la norme que finalement, c'était pas quelque chose qui... Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai une copine qui m'a écrit en me disant... En fait, elle était venue voir La Lesbienne Invisible, je crois. Et après, elle m'a dit, en fait, j'ai compris. En fait, t'étais amoureuse de moi. Et en fait, je crois que j'ai... Je sais pas si je lui ai répondu ou pas, mais je lui ai dit non. Enfin,
pas du tout.
En fait, peut-être, mais c'était pas du tout une question dans ma tête. Et je pense pas, en fait. En vrai, je pense vraiment pas. Oui. Mais je pense que mais c'était assez rigolo, tu vois, de recevoir ce message, de dire en fait, je comprends ce personnage, c'est moi. Et en fait, c'est vrai que dans le texte d'Océan, qui est le texte d'Océan, le personnage avait le même nom de famille que cette copine.
Si elle s'appelle Martin, mais est-ce que sinon c'est improbable d'avoir le même nom? Enfin,
écoute, c'est incroyable. Elle m'a dit en fait j'ai compris, c'est moi. Et en fait j'étais là, c'était pas du tout un message, c'est vraiment le texte qu'Océan m'a demandé d'apprendre au mot près. C'est à dire que je pouvais pas dire chaise si t'es tabouret, quoi.
C'est pas un peu mégalo ça de dire genre je sais que tu parles de moi, mais pas du tout?
Non, je pense que tu sais, tu remets un truc et tu dis ah putain. En fait, je pense qu'elle s'en voulait, elle s'est dit ah putain, en fait si ça se trouve, en fait je l'ai maltraité, je m'en suis pas rendu compte, alors qu'en fait
c'est trop gentil.
Ouais, c'est gentil, mais en même temps j'étais là, qu'est-ce que je réponds? Parce que c'est... En fait, je veux pas... tu sais, je voulais pas la vexer. Je voulais pas lui dire, tu sais, malheureusement, j'étais pas amoureuse de toi il y a 15 ans.
Mais après, avec du recul, tu vois toujours des pistes de gens vers qui t'allais plutôt. Enfin, tu sais, avec du recul, une fois que t'as compris que t'étais lesbienne, peut-être que t'as des indices de quand t'étais plus jeune, quoi.
Certainement, mais je crois qu'en fait, c'était tellement un truc que je ne voulais pas être.
Ouais.
Je voulais tellement pas être lesbienne que finalement, je pense que c'était pas quelque chose qui...
Finalement, t'as fait la lesbienne.
T'as jamais flashé sur quelqu'un à la télé ou une présentatrice, une actrice?
Mais si, mais je me disais pas que c'était... tu vois, me disais pas que c'était quelque chose de...
Elle est sympathique, mais voilà.
Ouais, je l'adore, tu vois. Je pouvais même trouver les meufs belles et tout, mais c'était pas...
Tu te visualisais pas avec?
Non, c'était pas quelque chose que je m'autorisais, quoi. Ça existait pas, en fait.
Ok.
Enfin, ça n'existait pas, ça existait, mais c'était pas.
Et à quel moment t'as un déclic?
Bah, avec Adélaïde, en fait. C'est-à-dire qu'un jour, Adélaïde me dit. Enfin, elle me disait qu'en gros, elle se rapprochait d'une autre meuf, et là, je me suis dit, c'est impossible. C'est impossible. Je peux pas la laisser aller vers cette autre meuf. Et après, j'étais là, non, mais c'est sûr, si elle a le choix entre elle et moi, elle me choisira moi. Et donc, en fait, au bout d'un moment, bah, il s'est passé que je suis restée dormir chez elle et que voilà, on s'est embrassés et c'était super. Mais il a fallu que je me sente finalement en danger et que je me dise, je peux pas perdre cette meuf, quoi.
Ok.
Oh, waouh. Wow.
Et du coup, ta première relation date à quand?
Ah, bah alors, je peux de la. Je pense, dirais 2005 ou 2006. C'est ça.
Et après le processus.
Avec Adélaïde.
Ah, donc avec Adélaïde, ouais. Quand même. Ah, ok, ça s'est concrétisé avec et tout.
Ouais, ça s'est concrétisé. Okay. On n'est pas restés longtemps ensemble.
Et vous avez resté combien de temps? Ah, oui, tout à
l'heure. Oh, pas longtemps. Quelques mois, okay. Peut-être 4 mois.
Ça a été
mois,
ton, comme on dit, ton gay awakening, quoi. Ton,
ouais,
la
complètement.
Personne qui t'a fait réaliser en fait que t'étais queer, que t'étais.
Ouais, ouais, puis elle le vivait pleinement. Et puis elle était. Voilà, c'est elle qui m'a fait découvrir The L Word. Enfin, mais c'est un détail, mais n'empêche que c'était oui, hyper important, un gros truc. Ah, ouais, un gros truc donc, c'était vraiment. Ouais, c'était elle. C'est vraiment okay.
Et c'était
elle,
en Bretagne, ça?
C'était à Rennes, ouais.
À Rennes?
Ouais.
C'était pas pouf.
À plouf. C'est pas à plouf. Non. Non, mais alors ce qui est assez rigolo, c'est que ma meuf actuelle, car oui, désolé mesdames.
Elle est prise.
Ouais, mon cœur est pris. Non, en fait, et, ma meuf, elle a organisé la première marche de fierté à Saint-Brieuc. Elle n'était oh, wow. pas toute seule, hein. Il y avait vraiment toute une équipe, le planning familial, toutes les associations LGBT. D'ailleurs, il y a une association en Bretagne, mais je crois que c'est un peu partout, mais qui s'appelle Grey Pride.
Oui, pour les gens plus âgés.
Ouais, ouais. Et je trouve que ce nom est incroyable. Ouais. Je trouve que c'est vraiment le meilleur nom. Bref, plein d'associations. Et elle a fait partie de ceux qui ont impulsé ce truc. Et en fait, les gens disaient, il n'y aura personne. Enfin, et même nous, on ne savait pas combien il y aurait de gens. On se disait, ça se trouve, on va être 50. Et ce sera déjà génial.
Bah oui.
Et il y a eu 2000 personnes.
Wow.
Et en fait, c'est fou parce que ce jour-là, j'ai vu... Moi, j'étais au stand, j'étais à l'accueil et je vendais les badges. Okay. Donc en fait, il fallait les faire en même
Mais
temps.
Mais les badges, pourquoi?
Bah les badges, des badges...
Des pins, quoi.
Des badges ah, okay. Avec des drapeaux.
Je suis gay,
vieux. Ouais. Franchement, en dessous de 20 ans, ils étaient tous asexuels, aromantiques. Vraiment. Et moi, j'étais là, on n'a pas assez de badges asexuels. C'était incroyable. Mais vraiment, j'étais là, waouh, polyamoureux. Vraiment, j'étais là, je me suis sentie vraiment vieille parce que je voyais bien qu'on n'avait pas les bons badges.
Ça ne rentre pas sur un badge polyamoureux.
On n'avait pas les bons badges.
Bref. Et donc, par contre, l'année dernière, on était au taquet, genre, il y en avait vraiment beaucoup. qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, et donc en fait, c'était hyper émouvant pour moi. J'ai fait que pleurer ce jour-là. Parce qu'en fait, finalement, c'était un jour où il y avait. En fait, j'ai vu toutes les lesbiennes que j'avais pas vues dans mon enfance. Mmh. En fait, j'ai vu des femmes, ou même pas que des femmes, hein, pas que des couples de femmes, des couples d'hommes, enfin, plein de couples qui étaient. Alors, certes, la jeunesse, ça m'a vachement émue et tout ça. Mais en même temps, c'était les plus vieux, moi, qui me touchaient. Parce que je me suis dit, en fait, toute ma jeunesse, ces gens-là, je ne les ai pas vus. Peut-être parce que je ne voulais pas les voir, mais aussi parce que je crois que c'était des gens qui vivaient peut-être un peu plus cachés. Mmh. Et d'un coup, de les voir là et d'être là, alors, ce badge, ça veut dire quoi? Et moi, j'étais là, je ne suis pas sûre, je vais me faire un... Parce que c'est compliqué de les connaître tous, les drapeaux. Donc voilà, donc ça m'a vachement émue. Parce que finalement, ils n'ont pas existé dans mon enfance et même dans l'espace public, je crois.
Tu penses que tu aurais apprécié qu'ils existent? Enfin, tu aurais apprécié les voir en grandissant? Ça t'aurait... Peut-être t'aurais des romances
bah,
plus
oui,
tôt aussi, tu vois.
Peut-être que j'aurais cru que j'aurais su que c'était ok. Peut-être que là, mais après, je sais aussi que je suis née quand même à une bonne époque par rapport à ma sexualité, parce que j'avais rencontré une femme qui me racontait que quand elle a commencé à avoir des sentiments pour une autre femme, elle était plus âgée et elle m'avait raconté que elle avait dû inventer sa propre homosexualité, parce que finalement, elle l'avait jamais. Elle ne savait pas que ça existait. Elle se disait juste qu'elle n'était pas normale et que ce qu'elle ressentait était complètement anormal. Et donc, elle a dû l'inventer, se dire que bon, bah, je le fais, mais c'est complètement interdit. Alors que moi, je savais que ça existait, je savais que c'est pas du tout pareil. Quoi.
En fait, j'ai l'impression que tu n'as jamais réellement souffert du fait que tu étais refoulée ou quoi, tu vois, genre par rapport à d'autres histoires qu'on a pu entendre.
Non, non.
Tu n'as pas souffert dans ton sens de te dire je ne peux pas être moi-même. Quoi.
Moi, ce qui a été plus douloureux pour moi dans mon parcours, ça a été de ne pas le dire après que moi je l'ai découvert. Parce que ça a fait, je pense, que j'ai... Et en fait, moi, j'ai jamais osé aller dans les barguets. J'ai jamais osé aller vraiment à la rencontre de gens. Et je pense que ça a fait que ça a créé une sorte de solitude. Moi, j'étais avec tous mes potes, qui sont super, c'est mes copines, c'est encore mes copines aujourd'hui, mais qui sont pas du tout des gens, c'était pas des gens queer. Mmh. Et donc, en fait, je rencontrais pas des personnes queer. Mmh. Et quand j'en rencontrais, du coup, je tombais très vite amoureuse de gens qui n'étaient pas forcément pour moi, qui n'étaient pas forcément... Enfin, je ne sais pas comment dire. Je pense que moi, j'ai projeté vachement. Mmh. Et tout ce que je voulais, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui avec ma meuf. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était avoir une vie avec une meuf et qu'on grandisse. Enfin, j'ai eu toujours cette sensation que j'étais faite pour être en couple. Monogame. Et bon, voilà. Mais il y avait un truc qui était très... Pour moi, c'était une évidence. Et maintenant que je le vis concrètement, je me dis, voilà, bah, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça que je cherchais avec les autres. Et ça, j'ai beaucoup plus souffert de ça, finalement, de cette espèce de solitude de la lesbienne errante, on va dire, que d'avoir été lesbienne.
Okay.
Plus ça.
Et tu penses que tu trouves une forme un peu de thérapie, justement, enfin, pas thérapie, c'est pas le bon mot, c'est vraiment pas le bon mot, mais de faire du théâtre et de tout ça, et d'incarner des personnages et d'être comique, tu penses qu'il y a un lien ou pas du tout? Ou c'est juste que tu as toujours été attirée par le théâtre?
Non, j'ai toujours été attirée par le théâtre et ça m'a toujours... non, je pense... Moi, il y a plein de gens qui disent que forcément les humoristes, ils réparent des choses. Et que ça, moi, c'est vraiment juste du plaisir. Et ça fait pas très longtemps que j'ai compris que, effectivement, de dire sur scène... Pardon, que de dire sur scène aux gens que j'étais lesbienne, ça pouvait faire du bien aussi. Enfin, je vois bien que quand je vais jouer, il y a parfois je joue dans des endroits qui sont vraiment bah pas queer quoi. Vraiment, ça t'arrive, tu te dis pas ah le bar gay il est là quoi. Il y a pas de et parfois juste de dire bah en fait moi je suis lesbienne. Voilà à quoi ça ressemble une lesbienne. Et peut-être que vous avez peur de nous, mais en fait vraiment regardez, c'est juste, c'est vraiment. On pouvait pas avoir peur de moi quoi. Et donc j'ai oublié la question, mais non, moi c'est ça aussi, là ça répare, moi ça répare rien, non. Ouais. Enfin, je crois pas que ça répare quelque chose.
Ok. Et parce que du coup tu commences le théâtre quand t'étais en troisième, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ok.
Wikipédia, merci, hein.
Non, mais tu
Wikipédia est très précis.
Qu'est-ce que tu trouves dans le théâtre? Pourquoi tu vas vers cet
art-là? J'adore vraiment faire rire les gens. C'est un vrai truc qui moi m'anime. Cette sensation, voilà, d'être ensemble, c'est, enfin, de créer quelque chose d'unique avec des gens sur un moment précis, moi ça m'emporte quoi. Ça j'adore. Et j'adore discuter avec les gens, j'adore la surprise, les surprendre, j'adore voilà, un rire qui explose, c'est incroyable. Moi, c'est vraiment ça qui m'amène à faire de l'humour, c'est pas changer le monde, ou c'est pas, et je sais que aujourd'hui on veut tous avoir des sujets, enfin voilà, dès qu'on fait un dans l'humour, dès qu'il y en a un qui fait un truc de développement personnel, après bon bah voilà, ça fait un spectacle, enfin voilà, on fait tout ça, c'est vrai. Ouais. Et moi-même la première, hein, vraiment je l'ai fait, ouais, je peux pas te dire, en fait, j'ai l'impression que c'est ma place, quoi. Mais comme là, aujourd'hui, je fais de la radio et j'ai l'impression que c'est ma place aussi. Enfin, je peux pas expliquer.
Est-ce que tu trouves que c'est... J'imagine que oui, mais surtout à cette époque-là, bon, encore une fois, on précise, t'as pas non plus 70 ans, mais...
Non, j'ai 37 ans, je vais avoir 38 ans.
Voilà, mais j'ai quand même l'impression que, de fil en aiguille, enfin, tous les 5 ans, 10 ans, il y a des générations nouvelles et avec des mentalités qui changent très rapidement. Espérons, il y a encore beaucoup de travail, mais quand même, c'est mieux qu'avant. Est-ce que quand tu rentrais dans le terrain de l'humour et tout ça, en tant que femme et en tant que lesbienne, t'as eu quelques difficultés
Moi, je suis pas rentrée dans ce milieu en tant que lesbienne. Bah oui. Donc, en fait, je suis rentrée dans ce milieu en tant que femme. Juste. Après, ça m'amusait quand des programmateurs me disaient « Ouais, mais tu vois, vous, les femmes, vous parlez tout le temps des mêmes choses, vous parlez tout le temps de vos mecs. » Et moi, j'étais là « Bah, en fait... » Non, je parle pas de mon mec, mais c'est vrai que je t'ai pas dit non plus que c'était pas un mec. Donc, Non, moi, quand j'ai commencé, on n'était pas beaucoup de femmes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient de leur sexualité, très très peu. Il y avait Jarry. Et c'est tout.
Muriel Robin, est-ce que c'était sous-entendu?
Muriel Robin,
vraiment...
elle n'en parlait pas. Elle n'en a parlé que dans son dernier spectacle. Mmh. Sinon, avant, elle n'en parlait pas. Mmh. Donc, non, il n'y en avait pas. Il y avait un vrai manque de représentation. Donc, aujourd'hui, par contre, moi, j'ai une vraie fierté à le dire sur scène. Aujourd'hui, maintenant, même à la radio, je le dis vraiment souvent. Donc, ça me fait rire parce que juste avant ce podcast, on discutait du fait que j'ai découvert qu'il y avait un site, a priori, d'extrême droite qui disait que j'étais LGBTQIA+ de service. Et on se disait, c'est quand même fou qu'ils mettent LGBTQIA+, parce que c'est vraiment très respectueux pour des gens qui n'ont pas du tout envie de... Bref. Mais en fait, moi, je me dis, vraiment, pour moi, c'est pas insultant d'être LGBTQIA+ de service, parce que c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai un malin plaisir à dire dans mes podcasts ou à la radio que je suis lesbienne, parce que, déjà, parce que dans le génie lesbien, je crois que c'est dans le génie lesbien, elle dit que sur France Inter, on dit jamais le mot lesbienne. Ouais, je veux dire que depuis, on le dit au moins 3 fois par émission. Et voilà, ça, c'est important pour moi. Après, mais j'oublie les questions, donc c'est le problème. Hein. Bon, je sais plus où j'en étais.
Non, mais c'est bien, ouais. On va un peu partout. C'est aussi ça la discussion. Hein. C'est pas question-réponse, question-réponse. Ouais. On parle de tout ce qu'on veut.
Mais du coup, par rapport à ça, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on est plus visibles les lesbiennes en France? Tu vois que ce soit.
Bah, quand même, oui. Quand même, oui. Oui, et je pense que ça va aller de plus en plus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de. Mais parce que toute cette génération-là qui arrive, enfin, qui est déjà arrivée, qui est déjà bien installée, elle est formidable. Enfin, moi, pour moi, c'est beaucoup. Moi, je présente par exemple le Pride Comedy Show. Je ne sais pas si vous étiez venu à la dernière.
On n'était pas dispo.
Vous n'étiez pas dispo. bah, de toute façon,
on a vu Alex Ramirez ce soir-là aussi.
Non, non, mais j'ai présenté donc. Deux plateaux LGBT pour QIA+, pour... je ne ferais pas que ce soit moins inclusif que l'extrême droite, quand même. C'est quand même hyper fou. Non, j'ai présenté deux plateaux et probablement ça va de nouveau avoir lieu cette année. Et en fait, ce qui était fou, c'est qu'au début, on s'est dit, est-ce qu'on va avoir assez de gens? Et là, je me dis, merde, en programmant, je ne peux pas mettre tout le monde tellement il y a deux gens. Et en fait, c'est fou de se dire que même il y a des gens que je ne connais pas et tout ça. Et ça me plaît. C'est incroyable, en fait, de se dire qu'on peut faire des plateaux et c'est tellement fort et c'est tellement puissant. Et ce que ça me crée, moi, comme émotion de d'être entre nous, en fait, aussi. Et que pour une fois, en fait, on parle de nous et qu'on ne nous dit pas « Est-ce pas vrai ?» En vrai, les mecs, les meufs, quand nos mecs... Et je suis là, vraiment... mais tant mieux, enfin c'est super hein, mais juste de pour une fois ça soit inclusif, ça fait
et qu'on s'identifie, enfin ton spectacle, enfin du coup aussi celui de Océan, c'était hilarant parce que justement tu te reconnais dans tellement de situations, tu dis enfin ce qu'on disait à Tani, enfin quelqu'un qui parle de nous, tu vois, directement. Ouais. Et avec les, après on a tout rigolé ensemble, de plein d'anecdotes, et puis ça crée du lien même entre bien nous sûr. Tu vois, donc c'est trop cool.
Hop, on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que
Water Drop. Donc, qu'est-ce que c'est Water Drop? Ce sont des petites capsules comme ça.
Qu'on appelle des micro-drinks.
Micro-drinks qui donnent du goût à l'eau.
Pas de sucre surtout, c'est important à préciser. Donc, ça donne un peu un très bon goût à votre eau sans sucre. Ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau. Sur leur site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes. Allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont. Vous avez 10% de remise avec Pain 10 et encore plus de remise sur d'autres produits.
Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance.
Yes, on reprend l'épisode tout de suite. Donc je pense que là, c'est la transition parfaite pour aller te demander vite fait qui sont un peu tes inspirations comique, on va dire, et qui finalement... Non, mais justement, c'est pas une question. On va te faire... Attention, c'est un petit jeu qu'on a préparé. Roulement de tambour. En gros, on va te faire choisir entre deux humoristes.
À chaque fois, okay.
On précise que c'est une liste qu'on a faite fait nous-mêmes.
Donc vous dites, qui sont tes inspirations? On va donc te les donner.
Exactement.
Très bien.
C'est exactement ça. Très bien. Non, mais après, en fait, on a fait une liste et vraiment, il manque énormément de personnes dans cette liste. Bien évidemment, sûr. On ne va pas non plus faire...
Est-ce que vous m'avez déjà mis dans la liste pour les autres ou pas?
Ben, on n'a jamais fait cette liste.
Ah d'accord, ouais. On inaugure avec
ouais,
toi.
Voilà, exactement. Ouais.
Dans les autres, on ferait que
chaque humoriste a un concept différent et voici le tien. Du coup, on va te donner le choix.
Est-ce qu'on peut faire un petit jingle?
Allez, jingle.
Bah, vas-y, lance-toi.
Il faudrait qu'on trouve...
Comment ça s'appelle, ce petit truc?
Tu sais quoi, c'est le concept aussi. C'est toi qui donnes le nom de ce concept. On a oublié de te le dire.
Choisis ton humoriste. Choisis ton humoriste. Choisis ton humoriste. Waouh, allez, c'est toi.
Bah ouais,
c'est
toi. C'est
nous.
Bah,
ouais. Continue.
Bah non, j'arrête. Non, non,
okay.
Choisis ton humoriste.
Choisis ton humoriste.
Sinon, on ira.
Et humilie les autres en les choisissant pas.
Super! Putain, ça nous évite d'aller sur un site internet à trouver un truc. Donc, super. On mettra un petit beat. Ok, tu as aussi la liste?
Ouais, vas-y.
Allez, je répète vraiment que c'est une liste.
Non, mais vas-y, parce qu'on va finir le podcast.
Non, mais qu'on ne pense pas qu'on connaît que ces personnes. On connaît beaucoup, mais on s'est dit, allez, on va les mettre. Alors, entre Shirley Soignon et Jamel Debbouze.
Shirley Soignon. J'ai travaillé avec elle.
On est fan. On veut aussi l'interviewer.
Ah, bah c'est Shirley, c'était au tout début de ma carrière.
Ouais, elle aussi, elle. Enfin, ça y est, non? C'est quoi?
Je lui ai posé la question et la dernière fois, la réponse a été tu me genres comme tu veux.
Okay.
Donc des fois je le genre masculin, des fois féminin, des fois ça dépend.
En tout cas, on l'invitera.
Mais donc, peut-être que ça a changé. Ouais. Et aussi c'est le cas, je suis désolée Shirley.
Entre Shirley Soignon et Anne Roumanoff.
Shirley Soignon.
Entre Shirley Soignon et Lou Trottignon.
C'est dur. Je vais dire Lou et ça n'a rien à voir avec Shirley, mais parce que je trouve, enfin, pour moi, c'est vraiment, enfin, ça va être une grande star, quoi, je pense. Et je le trouve bouleversant parce que, enfin, moi, ça me bouleverse de le voir évoluer, grandir et voilà, et je le trouve vraiment tellement intelligent dans comment il parle de tout, en fait, que je voilà, Lou Trottignon.
Lou Trottignon ou Jérémy Ferrari?
Lou Trottignon.
On a mis vraiment des options très hétéro.
Mais je mets Jérémy Ferrari, attends, je l'aime beaucoup aussi.
Attends, il y en a une qui arrive là, t'es pas prête.
Okay.
Lou Trottignon ou Bérangère Krief?
Bérangère Krief.
Ah.
Bah, en fait, je peux pas choisir. Enfin,
j'aime bien que t'as fait l'éloge de Lou il y a deux secondes et là direct.
Mais
non, Bérangère Krief.
Oui, mais il y a un truc entre. C'est un collègue que j'aime beaucoup et que je le trouve merveilleux. Et après, il y a quelqu'un qui est comme une sœur dans ce métier. Oui. Enfin, c'est
parce que t'as fait les premières parties.
J'ai fait les premières parties pendant 5 ans. Et ça a été vraiment, c'est vraiment pour moi, c'est une des personnes avec qui je suis les plus proches dans ce métier. Et c'est voilà. Et puis Bérangère, elle m'a donné ma chance. Mm-hmm. Bérangère, elle m'a voilà, quand elle m'a, enfin, j'ai appris mon métier grâce à Bérangère. Donc je lui dois énormément et je enfin voilà, c'est compliqué de choisir quelqu'un d'autre que Bérangère jusqu'à la fin de ce podcast.
Ouais, j'allais dire, tu nous as pris jusqu'à la fin.
Ouais, c'est vrai.
Dire,
on aurait dû laisser pour la fin. Mais et du coup, toutes tes premières parties avec Bérangère, c'est une expérience qui a été super bonne pour toi.
En fait, t'apprends ton métier dans des petites salles et puis après, d'un coup, tu fais tous les soirs une 450 places avec elle. Et puis moi, j'ai joué dans des salles immenses. J'ai fait le Bataclan, j'ai fait le Grand Rex. Enfin, j'ai fait des salles immenses. On a fait de la tournée, on avait je sais pas combien de dates. Enfin, c'était fou. Moi, j'ai vraiment appris mon métier grâce à elle, avec elle. Et ouais, c'est toujours une joie. Et avec Bérangère, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, quoi. Oh. C'est-à-dire que vraiment, un regard est... Et d'ailleurs, souvent, les gens pensaient que j'étais amoureuse de Bérangère.
Ah ouais.
Ouais. Et non.
Et
c'est une copine qui s'appelle Carole Guinel qui est humoriste et qui me disait, qui souvent nous disait Marine, Bérangère. Ah. Et en fait, le truc, c'est qu'avec Bérangère, souvent on se faisait un petit câlin avant de monter sur scène et vraiment à chaque fois on se faisait oh, Carole. Parce qu'on se disait, si elle rentre dans la pièce, c'est tout notre corps dit le contraire de ce qui va. D'ailleurs, on se disait oh, Carole.
Bon, tu nous as appelé le reste du classement. Du coup,
mais vas-y,
mais
continue, je veux savoir.
Allez, Bérangère et Jarry.
Bérangère.
Bérangère ou Tani?
Bah, en même temps, j'ai envie de continuer et j'ai envie de... parce que sinon, si je dis Bérangère, donc Bérangère, c'est pas contre toi, évidemment, tu sais, je t'aime, c'est mon ami. Je vais choisir Tani pour faire évoluer le jeu.
Et dont le podcast sort bientôt d'ailleurs, Tani. Bah, je pense qu'il... il sera déjà sorti, forcément.
Il sera déjà sorti.
Tani ou Alex Ramirez?
Tani. Mais Alex, c'est pareil, c'est quelqu'un. De ma génération, on a commencé ensemble. J'ai tellement pleuré à son spectacle parce que ça m'émeut en fait. Avec Alex, on a toujours un peu grandi en parallèle, sauf que lui, il a gagné beaucoup d'abonnés, qu'il a fait des beaucoup plus grandes salles que moi. Mais disons que il est comme moi en fait. Au début, il disait pas qui il était et ça a été voilà. Et aujourd'hui, il est tellement queer et il l'embrasse tellement ça et je le trouve tellement technique, il est tellement drôle aussi. Enfin, là, j'ai eu la chance, en fait, j'ai participé à un plateau, à plusieurs plateaux avec lui, quand il commençait à créer son nouveau spectacle là. Et vraiment, le gars, il n'avait encore jamais joué les textes qu'il allait jouer sur scène et c'était déjà tellement excellent que je le trouve, je suis vraiment fan de lui et je l'aime vraiment beaucoup. Ouais.
Trop bien. J'adore ses justifications. Je te choisis pas, mais voici
non,
ce que
mais
je vais te
raison,
dire.
C'est bien, t'as raison. Oui. En fait, c'est pas vraiment qui t'inspire le
exactement.
Plus, c'est juste...
Finalement, c'est un éloge de chaque humoriste.
Oui.
Bon, là, donc du coup, on est sur Tani.
Tani, hein. Tani et Paul Mirabel.
Bah, Tani.
Tani ou Tristan Lopin?
C'est dur.
On a fait exprès. Hein.
Ouais. Tani ou Tristan Lopin Tani ou Tristan Lopin
Tristan écoute le podcast. Hein, tiens.
Bah de Tristan Lopin. Tristan Lopin, qui est un mec que j'adore. Aussi. Non, mais c'est vrai, Tristan, je le trouve aussi très fort. Il est génial. Je, je, enfin son spectacle aussi, il m'a vachement touchée et en fait j'adore, c'est, en fait ça m'a aussi vachement émue de voir ce mec qui cartonnait en étant pleinement lui-même et en ne négociant jamais, et ça je trouve que c'est hyper fort. Et je trouve que même là sur son nouveau spectacle, j'avais eu une conversation avec lui et Bérangère justement et Laura Domange, et on avait une conversation où il disait que bah, dans son nouveau spectacle il allait aborder de nouveaux trucs beaucoup plus forts. Et quand je l'ai vu sur scène, je me suis dit mais il est tellement juste, il est tellement au bon endroit, et il arrive à nous faire, enfin je trouve qu'il est, il est très fort aussi, je l'aime beaucoup.
Du coup, pour clôturer, Tristan Lopin ou Florence Foresti?
Tristan Lopin.
Ok.
Trop bien.
On reste sur Tristan Lopin.
Jingle.
C'était la fin de Tu choisis un humoriste ou tu sacrifies tous les gens que tu aimes. Et finalement, c'est Tristan Lopin qui gagne.
Hey. Bon, mais trop bien. Non, mais c'est cool aussi, tu vois, de voir tous les artistes. Enfin. Tous les artistes queer et qui sont ouverts sur ces thèmes. Et moi,
mais Mamari, par exemple, aussi, en ce moment-là, moi, je suis très fan de Mamari. Ouais. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller la voir. Mamari, je trouve qu'elle elle est renversante aussi. Enfin, Noam Sinceau. Noam Sinceau, enfin, vraiment, pour le coup, Noam Sinceau, moi, c'est, ça a été un coup de cœur, mais immédiat. Je trouve que ce mec, enfin, il faut aller le voir, parce que là, il y a son spectacle là, qui commence, la Makomé Superstar. J'ai trop envie. Il s'avère que la prochaine date, il va jouer en même temps que moi. Je crois que c'est le 14 mars. La meuf qui connaît toutes les dates de tout le monde. Il me semble qu'il est le 14 mars à Paris, le 16 mars, pour le retrouver. Non, mais.
C'est sa promotion, quoi.
Non, Noam Sinceau, ça a été un éclair. Enfin, je sais pas comment vous dire, j'ai eu un coup de foudre pour ce gars. Et là, je le vois avancer et il me fait rire parce que des fois, il me dit bah, tu m'as dégoté. Je l'aime vraiment beaucoup.
Et c'est trop chouette qu'il y ait aussi une solidarité entre vous, parce que chaque fois que bah, les autres sont venus aussi sur le plateau, tout le monde en fait, finalement, s'encourage. Il n'y a pas vraiment ce truc de.
Non, il n'y a pas de compétition.
De compétition, ouais, quoi.
J'ai l'impression que. Cool. Et après, je ne suis pas du tout du milieu, donc je ne peux pas forcément savoir, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de rivalité ou de compétition entre peut-être les humoristes hétéros. Que j'ai l'impression que les humoristes queer, il n'y a plus cette fratrie ou cette solidarité que peut-être ne retrouve pas, tu vois, parce que...
En fait, moi, c'est pas tant les humoristes hétéros, c'est plus les humoristes hommes, cisgenres.
Ouais. Ouais. Oui, ouais, c'est pour moi, c'est la même chose.
Voilà. Oui. Je vais dire ça plus, parce que c'est comme ça que je le ressens plus. Mais aujourd'hui, enfin moi quand j'ai commencé le stand-up, tu sais, j'ai la vieille, c'était pas pareil. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup, enfin les plateaux et tout ça, c'est, faut beaucoup plus se battre, et c'est pas du tout comme quand moi j'ai commencé. Moi, je devais lutter pour avoir une place sur un plateau parce que j'étais une femme. Aujourd'hui, c'est plus une question, enfin en tout cas ça allait beaucoup moins. Et de toute façon, je fais plus de plateau.
Et puis tu devais être plus drôle et tout ça pour vraiment prouver, parce qu'en non, en tant que femme,
je sais pas, mais c'est juste plus dur d'avoir une place en tout cas. Ouais. Aujourd'hui, c'est pareil, je comprends. Enfin, tu vois, il y a pas beaucoup de plateaux. Des fois, maintenant, ça s'est durci. Moi, quand je commençais, on me disait t'as 10 minutes. Là, maintenant, les gars, on leur dit t'as 2 minutes. Et tu fais 2 minutes pour faire rire les gens, c'est pas beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde se filme, tout le monde. Enfin, tu sais, le discours de vieille. Je veux arrêter cette conversation.
Non, mais ça.
Il y a TikTok aujourd'hui.
Non, mais c'est parfait pour la transition, puisque là, on va te faire des questions très random.
D'accord.
Comme ça, on s'est dit. Okay. On part sur du spontané, on part sur. Qu'est-ce qui. Voilà. Ta vanne préférée.
Ma vanne préférée.
Ouais.
Oh non, c'est dur. Non, j'ai pas de vanne.
Ou alors la vanne pour les gens comme moi qui se souviennent jamais de vanne. C'est, il faut un truc court, efficace, qu'on peut sortir à n'importe quel moment.
Ouais, c'est quand on te dit genre. Dis-nous une blague.
Non, mais... je dis non. Quand on me dit dis-nous une blague, je dis franchement, si tu veux en écouter plein, tu viens au grand
un
point virgule.
Spectacle.
Et vraiment, moi, je bosse pas gratos. Ouais. Non, franchement, c'est dur. C'est hyper dur. Parce que moi, j'ai pas de. Moi, je suis pas une punchlineuse, donc c'est compliqué. Je peux pas te faire un one line comme ça, qui est très. Donc, je répondrai pas.
Et surtout, j'ai l'impression que les blagues françaises, elles sont quand même plus développées ou plus longues que des trucs anglais, genre. Moi, je suis américain en anglais depuis le début, je comprends pas pourquoi. Mais tu sais, quand t'es genre. T'as trois mecs qui rentrent dans un bar et tu vois, genre, c'est toute une histoire, en fait. J'ai l'impression des blagues françaises, alors qu'il n'y a pas le time, en fait. Alors, une phrase de drague à bannir à tout jamais.
Alors. Bon, je me fais très peu draguer, donc j'ai peu, et je drague très peu puisque je suis une femme rangée.
Rangée.
Rangée des bagnoles. Tiens, regarde, c'est une photo de ma bite. Je pense que c'est une très mauvaise.
Ah ouais, ouais.
Mais qu'on t'a déjà faite.
Oh oui, moi j'ai reçu des photos de pénis vraiment au repos, mais sur beaucoup de. C'était vraiment, c'était comme les Martines. T'avais son pénis sur un canapé, son pénis sur un piano et tout. Et j'étais là vraiment, juste faire un effort, juste rends-toi un peu dur, quoi. Tu vois, au moins.
Ah, non, pas de quelle époque, là.
Vraiment, le pénis mou. Ah, je te parle, il y a vraiment pas longtemps. Vraiment, le pénis.
Mais surtout, mais pourquoi un pénis, surtout pour.
Les gens continuent à t'envoyer des photos comme ça alors qu'ils savent que t'es lesbienne.
Oh, bah, tu sais, ça n'empêchait personne. Hein, je l'ai vraiment fait comme une vieille personne. Ça n'empêchait personne. Hein. Oh, tu sais, écoute-nous, on était. Oh, quand on a commencé, c'était avant que je fasse mon opération de la hanche. Et non, Oui. Mais alors après, on m'envoie ça, mais tu sais, les gens, ils sont souvent homophobes, quoi. Mmh. On va pas se mentir. Ah oui. Ils se disent non, mais c'est parce qu'elle a pas trouvé la bonne personne.
Elle a pas trouvé la bonne bite. Quoi. Ouais, okay, voilà. Wow.
Donc non, puis surtout les mecs. Mais j'en reçois beaucoup moins qu'avant.
Et en parlant de dating, justement, tu peux nous raconter un peu comment t'as rencontré l'amour ma de concu. Ta vie.
J'ai rencontré ma concu. Alors j'aime bien le dire que j'ai rencontré ma concu sur le Bon Coin parce qu'elle travaille pour le Bon Coin. Donc ça me fait rire. Mais excellent, tu voulais une blague et voilà. Regarde comme on a bien ri. T'as vu comment on a bien ri. On s'est rencontrés sur les réseaux. Le truc c'est que moi j'avais genre une notoriété de 0,5%, mais je voulais quand même pas que les gens que j'allais rencontrer me reconnaissent, sachent qui j'étais. Donc je m'étais dit, dès que une meuf me dira « Hey, mais t'es la lesbienne invisible », je répondrai « Oui, merci, au revoir ». Vraiment, c'était
parce
ça.
Parce que tu pourrais pas être avec quelqu'un qui te reconnaît, enfin, qui te reconnaît de son...
En fait, c'est pas équilibré. Ouais. Et puis, il y a ma concu qui m'a écrit, et ma concu, elle m'a dit « Salut, ah, mais en fait, je crois qu'on vient de la même ville, et en fait, je crois que t'es la lesbienne invisible », et tout ça. Et je me suis dit... Bon allez, c'est pas grave en fait, pour une fois, et en fait, voilà, on est ensemble aujourd'hui. Okay. Donc on s'est rencontrés comme ça, on a fait un date sur les quais de Seine, ça sentait le pipi. Il y a des mecs qui disaient « T'as pas une clope ?» Voilà. vraiment beaucoup de gens, on fume pas, on est en train de boire un jus de kiwi, laisse-nous tranquille. On s'est rencontrés comme ça et ça a été très progressif, contrairement à beaucoup de mes histoires où moi d'un coup j'étais à fond et enfin moi je suis toujours tombée amoureuse des mauvaises, enfin pas des mauvaises personnes parce que c'était des mauvaises personnes, mais des mauvaises personnes dans le sens où c'était pas des histoires pour moi et que où moi j'étais folle amoureuse de personnes qui n'étaient pas voilà, donc là pour une fois c'était une relation équilibrée où enfin voilà, peut-être je me disais, en fait, c'est le début, c'est une relation sur les réseaux, donc peut-être que ça fera rien et peut-être que c'est pas magique en fait. Et donc je pense que du coup, ça m'a enlevé une certaine pression et une pression de résultat. Tu vois, moi j'ai toujours voulu être en couple, donc j'étais là, genre ouais, moi j'ai vraiment envie d'avoir une maison avec vraiment des enfants et tout. Et donc là, il y avait un. Voilà, c'était les réseaux, elle me connaissait déjà, donc je m'étais dit peut-être ça va peut-être pas marcher, j'en sais rien. Et donc en fait, en tout cas, j'étais beaucoup plus détendue et finalement j'ai pu être vraiment moi et simplement. Et en plus, moi je fais beaucoup de cadeaux, moi je suis un peu intense. Hein. Moi vraiment, je suis un peu genre vraiment, heureusement que les gens m'aiment bien, sinon peut-être c'est un peu du harcèlement. et en fait, elle m'a dit par contre, vraiment tes cadeaux et tout, je suis désolée, mais ça m'intéresse pas. et donc du coup, moi tout s'est effondré. Et donc là, par exemple, il y avait la Saint-Valentin et je lui ai dit, je t'ai pas fait de cadeau, c'est ton cadeau.
Waouh.
Et donc, elle a dit, c'est super. Donc, et voilà, et on s'est rencontrés comme ça et ça s'est fait tout doucement. Et là, maintenant, ça fait 4 ans et demi, donc c'est chouette.
Et ça t'intimidait pas qu'elle te voit sur scène ou qu'elle vienne?
Moi, j'aime bien qu'elle vienne, ouais. J'aime bien qu'elle vienne. Au début, la lesbienne, elle venait voir la lesbienne invisible et ça me faisait un truc un peu émouvant et tout. Non, maintenant, moi, j'aime bien qu'elle soit là. Ouais. Mais je sais que, par exemple, elle n'aime pas trop être dans des endroits enfermés comme ça. Donc, je sais que ça lui coûte à chaque fois un peu de venir. Et en même temps, elle vient hyper souvent. Donc, en fait, elle est fière à chaque fois. Et donc, je crois que ce truc-là, ça me touche vachement, quoi.
Et ça, c'est un grand sujet. Mais est-ce que vous avez des plans de maternité?
De maternité. On a complètement des plans de maternité. Le problème, c'est que là, actuellement... moi, je suis obligée de vivre à Paris et on a acheté maintenant une maison en Bretagne. Et donc, elle vit en Bretagne. Et alors, on se rejoint. Moi, je retourne tous les week-ends. Et voilà. Mais c'est vrai que là, actuellement, comme je suis à la radio, j'ai une émission tous les jours où dans laquelle j'ai une chronique. Mais en fait, je prépare toute l'émission. Mmh. Et donc, je travaille du matin hyper tôt jusqu'au soir quand même.
Assez tard.
Ça finit à 18h. Donc, le temps qu'après je rentre, j'ai une heure et demie pour rentrer parce que j'habite hyper loin. Bref, donc. on habite actuellement pas dans la même ville, donc ça décale, mais en même temps, moi, j'ai 37 ans. Mais on avait fait toutes les démarches. On a commencé un programme de PMA en Belgique. C'est très cher.
C'est combien, on peut savoir, plus ou moins?
Absolument, j'ai 2 800 € de sperme au congèle, là, actuellement. Donc,
ok.
Vraiment, okay. N'hésitez pas si vous voulez faire des dons. Si vous avez un congèle.
L'annonce est lancée.
Cet épisode, il faut définitivement le voir sur le YouTube. On est d'accord.
Car je fais des têtes. En fait, on avait tout commencé. On a fait tous les tests et tout ça, pour que je porte. Et en fait, on m'a dit que j'étais un peu trop grosse. Et c'est vrai que je m'y attendais. Et en même temps, ça a été hyper dur parce qu'en fait, il y a plein de femmes grosses qui peuvent avoir des enfants au quotidien. Et du coup, ça m'a un peu stressée. Et je pense que j'ai repris par-dessus au lieu de perdre les quelques kilos qu'on me demandait de perdre. C'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a très envie. Le temps passe aussi. Moi, j'ai 37 ans, bientôt 38 de manière imminente. Elle est un petit peu plus jeune, mais... J'ai vraiment envie, moi, de faire cette aventure, d'avoir un bébé dans mon ventre. Et en même temps, pour l'instant, c'est pas possible. D'abord parce que on ne vit pas dans la même ville, mais si ça se trouve, là, notre émission, elle ne sera pas renouvelée, j'en sais rien. Donc, c'est cette année, c'est pas grave. Et en même temps, je sais que je suis trop grosse et que si je suis trop grosse, ça n'aura pas lieu. Mais en même temps, c'est en Belgique et c'est une clinique privée. Donc je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on s'inscrive je vous raconte un peu ma vie, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'inscrive en France? Et où en France, de toute façon, ça existe. Enfin, je pense qu'on me dira. Enfin, on me dira peut-être que je suis trop grosse, mais ça n'empêchera rien, quoi. Mmh. Parce que sinon, tout va bien.
Et pourquoi avoir choisi la Belgique?
J'ai été voir une sage-femme vraiment super à Pantin et elle nous a conseillé d'aller là-bas parce qu'elle avait eu des patientes qui avaient déjà été là-bas. Et donc on a choisi comme ça, en fait, vraiment tout simplement. Et c'était fou parce qu'on a été hyper bien reçus, c'était génial. Y avait pas, en fait, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y avait pas de... C'est pas normal. Mmh. Et donc ça, c'était fou parce que finalement, le seul truc qui n'allait pas, c'était que j'étais trop grosse, quoi. Mais sinon, en vrai, dans les 3 semaines, ils avaient reçu le sperme et on aurait pu commencer très vite. Donc, c'était, si ça se trouve, en fait, j'aurais pu avoir un bébé si j'avais pas été déjà un peu grosse, quoi. Et un peu grosse. Grosse. Mais donc, actuellement, c'est un peu douloureux pour moi parce que c'est quelque chose auquel j'aspire depuis tellement longtemps que de pas pouvoir le vivre en ce moment... Pour une raison qui est un peu nulle, en même temps, peut-être qu'on aurait pu...
Mais c'est une raison valable? Parce que moi, comme tu disais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes grosses qui sont enceintes et qui ont des enfants.
En fait, j'en ai parlé avec quelqu'un que je connais qui est aussi une femme grosse et qui a fait 2 PMA et elle a eu 2 enfants. Et elle, c'était en France, c'était avec le Sécos. Mmh. Et en fait, on lui a dit... on vous a expliqué pourquoi on vous a dit qu'il fallait que vous perdiez un petit peu de poids et tout ça. Elle a dit, bah non, on lui a dit, ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes plus féconde ou pas plus féconde. En revanche, ça a à voir avec le fait que pendant la grossesse, vous allez prendre du poids. Et que c'est prendre du poids, ça fatigue. Et c'est vrai, je le sais, moi j'ai un peu fait du yo-yo. D'ailleurs, si vous cherchez, il y a une vidéo de Mademoiselle dans laquelle je dis j'ai perdu du poids, je reprendrai jamais. Marine de il y a quelques années, je t'embrasse. disons que... on lui a dit, voilà, vous allez prendre du poids et après, il faudra... c'est compliqué, en fait. C'est physique aussi d'avoir un bébé. Est-ce que vous voulez... Et c'est vrai que moi, j'aimerais accueillir un enfant dans des très bonnes conditions et dans des bonnes conditions physiques. Mmh. Il s'avère que là, moi, en ce moment, c'est compliqué parce que je travaille beaucoup, j'ai pas tellement de vie sociale. Tout ce qu'il y a, en fait, tout l'esprit qu'il faudrait pour perdre ce poids, je l'ai déjà fait, donc je sais exactement ce qu'il faut faire. Mmh. Tout cet esprit-là, j'ai pas cette place-là. Après, je sais aussi que, en fait, la ressource, tu la trouves et que voilà. Bon, là, en ce moment, de toute façon, c'est trop compliqué. La vie que j'ai ne me permet pas de vivre cette expérience. Mais on se dit qu'il faudrait peut-être qu'on s'inscrive en France, en fait.
Bientôt, on fera un podcast justement sur la PMA parce que c'est un sujet qu'on n'a vraiment pas assez abordé. Et du coup, on va comparer un peu les différentes façons de faire la PMA, que ce soit en France, au Portugal et tout ça, parce qu'on a aussi très peu d'informations sur ça qui. même pas hyper discriminant pour les lesbiennes, qu'on ait à chercher cette information ailleurs.
Ouais, ouais.
Enfin, moi, tu vois, j'ai 30 ans, moi, je veux pas d'enfants, donc je le sais. Donc, je me pose pas cette question-là, mais si j'avais voulu, c'est vrai que. Où est-ce que tu vas chercher ces infos et à quel prix aussi, parce que ça a un coût quand
Exactement, mais après nous on a décidé d'aller en Belgique aussi parce qu'on pouvait, on avait les moyens de le faire, mais sinon on aurait pu attendre aussi, et c'est très long mais c'est possible aussi, et après en fait tu te retrouves à faire les... enfin, on a déclaré cet enfant, en fait on a été chez le notaire pour déclarer un enfant qui n'est pas né, parce que comme on est deux femmes, bah en fait si on veut que dès la naissance il ait deux mamans, et c'est assez rigolo parce qu'on a été chez le notaire et c'était au tout début que ça existait, et donc le notaire c'est Sam qui m'a donné le contact, et Sam en fait, parce que tous les notaires n'ont pas encore créé cet acte là donc en fait ils l'ont pas déjà fait, genre des testaments, tout ça, des trucs comme ça, ils en font hyper régulièrement, mais là le gars il l'avait créé, quoi, et donc on se passe un peu ça, tu sais, genre on va voir tel mec, je l'ai fait bien, on n'est pas jugé, tellement pas jugé, le gars il arrive, il me dit c'est incroyable, je vois beaucoup de lesbiennes en ce moment, et t'es là oui en fait tu l'as fait, il est bien, enfin voilà, c'est pour ça en fait, il était là ah d'accord, et donc il m'a dit bah mon ex est devenue lesbienne et vraiment j'en vois plus qu'elle, quoi.
Wow.
Ça nous a fait beaucoup rire. Mais donc en tout cas donc j'ai déclaré un enfant qui n'existe pas, donc vraiment le prochain enfant que j'aurai, si c'est avec n'importe qui d'autre, et ce sera avec Elisa, enfin avec ma concu. Bon, on s'en fout, elle s'appelle Elisa. et voilà, et je sais plus ce que je racontais, mais on a fait ça, enfin on prévient nos parents, donc, et puis en fait ça n'existe pas pour l'instant, mais ça arrivera, j'espère. Okay. J'espère. Il y a une voyante qui est venue voir mon spectacle et qui m'a dit à la fin de mon spectacle, parce que dans mon ancien spectacle, et même parfois sur scène, je raconte que la PMA, tout ça, ça m'intéresse, et qu'on a commencé un processus et tout ça. Et il y a une voyante qui est venue voir et qui m'a fait « Ne vous inquiétez pas. »
C'était quand ?
Elle m'avait dit « Il y a un enfant pour vous. » Non, c'était il y a 3 ans. Elle m'avait dit « Il y a un enfant pour vous. »
Allez, garde-le en tête. Et...
Voilà, c'est ça. Donc on verra.
Et tu y crois du coup à cette voyante ?
Enfin, évidemment que j'y crois, parce que je veux absolument y croire.
Yes, on va manifester tous ensemble.
La prochaine, on n'a pas fini notre petit jeu.
C'est un podcast qui fait maintenant 2h45. Les gens, plus personne nous écoute là.
Est-ce que tu préfères faire... On l'a demandé aussi à Tani. Est-ce que tu préfères faire un standing ovation et il y a Marine Le Pen dans le public, ou faire 3 bits d'affilée?
Oh, standing ovation avec Marine Le Pen dans le public, mais qu'elle voit. Mais qu'elle voit que tout va bien en fait.
C'est trop drôle. Tani, du coup, elle a dit l'inverse. Elle dit ah non, je préfère faire un billet qui est Marine. Je pense que l'idée d'avoir Marine Le Pen dans son public, tu vois, mais c'est vrai que finalement, avoir.
Célèbre ton art.
Se faire un peu éduquer par l'humour, c'est pas mal non plus.
Bah, ouais,
et ça
non,
voudrait
non,
dire qu'elle est d'accord et qu'elle rigole de ce que tu dis. Donc,
entre Marine,
Entre Marine.
Entre Marine, bah moi, je veux dire, on me le dit hyper souvent. Hein, donc.
C'est vrai. Ah ouais. Parce que tu t'appelles Marine.
Tu t'appelles Marine, genre, c'est pas trop dur. Hein. Bah, moi, j'aime bien mon prénom. Après, malheureusement, Marine Le Pen.
Et la dernière, c'est...
Non, il y en a deux. Dans une apocalypse de zombies, quelle serait ton arme ?
Mon haleine.
Okay. Elle est pas mal, celle-là. Je m'attendais tellement pas à ça.
On mange beaucoup d'ail avec Elisa.
Ok,
d'accord.
En plus, maintenant, t'as dit son nom.
On s'est bien trouvé.
Et la dernière, c'est... Bon, après, je pense que... Ouais, bon, bref. C'est
plus ne tu juges pas, j'arde la dévalorisation.
Allez, faire 1 million de vues sur ta pire blague ou faire 100 vues sur ta meilleure blague.
Franchement...
C'est très génération Z.
Voilà, c'est ça. Et comme tu le sais, je suis une personne âgée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Écoute, moi, de toute façon, je vais sur le YouTube et je cherche des recettes sur Marmiton. C'est principalement ce que je fais. Bah franchement, j'ai déjà fait des... j'ai déjà eu quelques petits bad buzz, là. Donc non, je dirais, mais je préfère faire 100 vues sur une mauvaise blague. sur une bonne blague, pardon.
Nickel.
Trop bien. Et finalement, le Mont-Saint-Michel, c'est normand ou c'est breton ?
Écoute, c'est plutôt normand. En vrai, c'est plutôt normand. J'ai fait un épisode dessus. C'est plutôt normand.
Les bretons,
mais
là, ils vont...
Les bretons en PLS. En quoi ?
On les met tellement pourtant.
Mais en fait, ça a été à l'un à l'autre. Donc finalement, c'est à tout le monde. Je crois que c'est au patrimoine. Et c'est à la France. Et c'est à... Non, C'est au monde entier que ça appartient. C'est un joyau.
Un joyau qu'il faut aller visiter.
Marine présidente, finalement, mais pas celle-là de Marine.
J'espère qu'on le sortira, ça, et qu'il y aura juste un truc, Marine présidente. Allez.
Où j'allais oublier. Et bah, du coup, pour finir, dans les deux.
Vraiment, ça fait 20 minutes qu'il y a une dernière question.
Entre les deux de vérité, enfin. Les deux anecdotes, laquelle était vraie, laquelle était fausse.
Bah alors, vous pensez quoi?
Alors.
Moi, je pense que la vraie, c'est celle des États-Unis, puisque Mylène Farmer. C'est
fou quand même que ce que tu penses qui est vrai, c'est un truc, non, genre mais... un spectacle de stand-up aux États-Unis où on me donne des tickets pour de la nourriture. Genre vraiment, c'est
pas ça,
beaucoup
c'est que...
plus improbable que Mylène Farmer qui va avoir un spectacle.
Non, on sait pas forcément beaucoup de Mylène Farmer, mais on sait que c'est une femme très discrète et qui, je pense, ne sort jamais ou on la voit jamais
la
nulle
nuit.
Part. Entre 2h et 3h30.
Mais je pense qu'on la voit jamais. T'as tellement vécu ton truc avec émotion du sac que genre.
Ouais, t'as incarné le personnage.
Après, j'ai fait le conservatoire. Tour de
oui,
Rennes.
C'est ça. Oui.
Ouais. Alors, moi, de je pars
Rennes,
quand même sur cette anecdote.
Le conservatoire de Rennes.
Je pars sur cette anecdote et pas sur Mylène Farmer, juste parce que j'ai l'impression que Mylène Farmer,
non,
personne l'a vu depuis
non.
son concert. Et si c'est Mylène Farmer. Non, c'est pas Mylène Farmer. Je dis que c'est
quoi.
La deuxième et c'est les États-Unis.
Attends,
c'est suspense. Aucune idée.
C'est effectivement, vous avez raison.
Ah, voilà. Mais trop fort. Mais oui, tu l'as joué, ce personnage,
oui,
tu l'as incarné.
Tu l'as vécu, t'avais presque la larme à l'œil et tout. Bon, après, t'es très bonne actrice, mais je me suis dit.
Et t'as donné autant de détails dans les deux, quand même. Donc, il y avait quand même un petit doute.
J'ai bossé.
Vraiment.
Et du coup, ouais, bah, franchement, chaud comme histoire, ça. D'aller juste, d'aller là voir un peu la pauvreté et tout.
Non, c'était vraiment chelou. Vraiment, je me disais, c'est trop bizarre.
Ouais.
Mais bon. C'est fait, c'est passé.
Et peut-être Farmer que Mylène... un jour. Hein,
non, mais peut-être que Mylène Farmer était vraiment dans ton public et tu le sais pas.
Je le savais pas, ouais, c'est ça. Je pense que je l'aurais su quand même. Mais ouais, je sais pas.
Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir.
Attends, je peux juste dire un truc.
Ouais.
Ah, oui,
je voudrais juste. Merci pour ce que vous faites, parce que c'est vraiment trop cool.
Ah, merci,
vraiment,
merci.
C'est vraiment trop cool. Ça fait du bien à tout le monde. Et moi, si j'avais eu vous quand j'étais. À l'époque, alors dans mes jeunes années, eh ben, ça aurait probablement changé beaucoup de choses pour moi. Donc merci beaucoup pour ce que vous faites,
beaucoup.
C'est vraiment trop cool.
Merci.
Et voilà, et vous, si vous êtes LGBT comme là, franchement, juste ça, kiffez la vie, parce qu'en fait, en vrai, vous avez un super pouvoir. Donc c'est trop cool.
Wow, wow. C'est beau. Mais merci déjà, merci énormément pour tes mots.
Où est-ce
qu'on peut te voir en spectacle coup, au point virgule.
De toute façon, vous viendrez pas, vous avez toujours un autre spectacle à voir.
Je promets qu'on vient la prochaine fois.
Je joue au grand point virgule les jeudis à 21h. C'est un spectacle vulgaire, c'est de la vulgarisation. Voilà, je prends des sujets auxquels je connais rien, puis je les explique avec des blagues.
Trop bien.
Et c'est vraiment marrant, les gens choisissent au fur et à mesure. Et voilà.
Et sans oublier que tu as un podcast aussi.
J'ai un podcast aussi qui s'appelle Vulgaire. Là, je viens de sortir un hors-série sur la bipolarité qui a été écrit par Carole Guinel, dont j'ai parlé tout à l'heure là, avec Bérangère. Elle parle de ça, elle parle de toute sa bipolarité. Qu'est-ce que c'est que d'être à l'hôpital? Qu'est-ce que c'est que de décompenser? Je le dis parce que ça peut aider plein de gens. Donc écoutez-les, ils sont vraiment super. Et donc oui, Vulgaire, ça sort tous
les lundis. Ça sort tous les lundis. Et t'as aussi la version pour les plus jeunes.
J'ai aussi la version Petit Vulgaire, ouais, où je raconte. En fait, c'est la même chose avec des blagues de prout. On va pas se mentir.
Mais je m'étonne que tu dors pas, tu fais tellement de choses.
Bah, franchement, je suis un peu crevée.
Waouh, bah oui.
Bah, merci. Je suis sur France Inter tous les jours.
Exactement.
Je suis sur France Inter tous les jours.
À quelle heure?
De 17h à 18h dans une émission qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien et je suis avec Marie Misset. Jusque là il y avait Maya Mazorette, mais maintenant il y aura plus Maya qui nous quitte, mais donc Marie Misset, et on s'amuse bien et on reçoit beaucoup de philosophes dont je lis livres mais je ne les comprends pas forcément.
Bah, du coup encore merci énormément d'avoir consacré du temps pour nous aussi et pour ce podcast.
Yes. Si vous avez aimé ce petit épisode avec Marine, mettez-nous un petit 5 étoiles sur Spotify, ça fait toujours plaisir.
Allez.
En vrai, on le rappelle à chaque fois,
vous dites que sur Spotify.
Spotify est sur YouTube, mettez-nous un pouce bleu et un petit commentaire.
Sur le YouTube.
Est-ce qu'ils devraient écrire un truc sur le YouTube pour dire qu'ils ont été jusqu'à la fin du podcast?
Écrivez sur le YouTube. Parce que vraiment, plus ça va, plus je prends un accent qui est vraiment. On sait pas de où, mais le YouTube.
Mexicain un peu.
On sait pas
cartel,
ce que c'est. De toute façon, on veut pas aller plus loin de peur de dire qu'on est raciste de quelque chose. Donc voilà. Le YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit message. Ouais,
ouais, mais quel mot est-ce qu'il laisse?
Oui. Pour être sûr qu'ils ont vraiment écouté jusqu'à la fin, tu vois. Un mot qu'aurait résumé tout ça.
Alex Ramirez. Écrivez Alex Ramirez.
Non.
si, c'est marrant. Écrivez Alex Ramirez.
Okay.
Ok, ça marche. Bon, en tout
voilà,
cas, merci beaucoup.
Yes, on espère que vous avez kiffé. On vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
Contre Nature.
Ciao,
bisous.
Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.